internacional y surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1.
Attention. 1, 2, 3.
Cheese!
Écoutez Conduite Antisportive, édition du mardi 30 novembre. Gabriel Tremblay à l'animation, en compagnie de Pierre-Alexandre, du même nom de famille.
Bonjour, mesdames et messieurs. Hein, une petite semaine, hein, je pense, cette semaine, en termes de sport. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles importantes?
Mon Dieu, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, Jésus-Marie, pleine de grâce, de friture.
Mais quelle semaine!
Surtout pour nos deux sports de prédilection, disons-le, le hockey et le baseball. On a un méchant gros programme, PA.
Un méchant beau programme.
Un beau et gros. Oui, c'est pas en deux temps. Ouais, on va faire ça avec concis de même. 50% baseball, 50% hockey.
Hey, pour l'occasion, j'ai même porté mon plus beau chandail qui ont gagné hier soir, paraît-il.
Hey, les Canucks de Vancouver, 2-1. Hein?
Oui, mais Caroline, que ça va mal pour ça. Si on parle d'une équipe qui va mal, on a le Canadien, mais Vancouver de l'autre côté du Canada, c'est atroce.
Je pense que les trois plus grandes déceptions dans la Ligue cette année... C'est Montréal, Vancouver et New York Islanders.
Effectivement, oui, les Islanders, c'est vraiment une déception. Je mettrais aussi Ottawa là-dedans.
Ouais, parce qu'Ottawa, après, on dirait que je leur donne encore le bénéfice du doute. Ils sont très, très jeunes.
Effectivement.
Les petits joueurs des Sénateurs.
C'est encore très jeune, mais...
Mais oui, mais en tout cas, bref, effectivement. Commençons par le hockey parce que, écoutez, l'état-major du Canadien, à moins que vous ayez la tête dans le sable depuis une semaine, a fait table rase et a complètement changé de visage.
Effectivement, Trevor Timmins au repêchage est fini, mesdames et messieurs.
Directeur du recrutement, Trevor Timmins, qui est limogé, licencié.
Mais c'est surtout le limogeage, ça dit-tu?
Le limogeage.
Le limogeage de Marc Bergevin.
Ouais. Le DG au gros bras.
Le gros bras, puis avec le beau... C'est quoi son soute rouge chanceux?
Il est lette.
Moi, je pense qu'on l'a gardé. Je pense qu'on va échanger.
Il est lette.
On a congédié Marc Bergevin, mais on a gardé le soute.
Toutes ses soutes, il pétait sur le dos à cause de ses gros bras. Bref, Marc Bergevin qui quitte après presque une décennie de direction générale.
Le Canadien a été sur l'ère des Molson en 2009-2010. Le premier qui a été engagé avec l'aide de Serge Savard, ça a été Marc Bergevin. Puis ils ont commencé à rebâtir l'équipe là-dessus. C'est plusieurs moves aussi qui ont été faits sur Marc Bergevin, des moves pour Canadiens assez importants.
Ben oui, franchement, ben écoutez, il y a eu son lot de, comment dire, de bons moves et de mauvais moves.
Effectivement.
Si on fait une liste là, de pour et de contre là, avec tous les échanges, transactions, signatures que Marc Bergevin a faites, le problème, là, en fait, que je trouve en ce moment, là, c'est qu'il laisse ce club-là avec plein de boulets.
Oui.
Des grosses signatures qui coûtent cher et coûteront cher aux Canadiens pendant de nombreuses années. Je pense entre autres à Brendan Gallagher qui, pour un plombier épuisé, fatigué, blessé de tous bords, tous côtés, à 6 millions sur un troisième trio au mieux, là,
oui, mais
ça
il fait mal. Pas faire autrement.
7 millions même, plus 7 millions. Là, c'est
à l'époque, on l'a signé, on ne pouvait pas faire autrement que signer. Je crois que ça aurait été une émeute pure et simple qu'on a eue dans les rues de Montréal si on n'avait pas signé Brendan Gallagher.
Mais à court terme, 2-3 ans, tu sais, Brendan Gallagher là, va être racheté là, dans 3 ans.
Je crois que c'était pour amortir les premières années de son contrat. Mais quoi que le contrat Gallagher n'est pas si gros que ça pour qu'est-ce qu'il en est pour 7 ans, mais c'est quand même... les 3 dernières années vont être très dures.
Mais là, franchement, en tout cas... Il y a eu son lot de bons moves et de mauvais moves quand même. Il faut quand même rendre à César...
Moi, selon moi, un de mes moves préférés qu'il a fait pour l'investissement qui a été fait et d'aller chercher ce joueur-là, mon préféré, je pense, ça a été Paul Byron.
Ouais.
D'aller rechercher ça, ce joueur au ballottage et qu'il a été performant pour Canadien. Moi, ça a été un de mes mouvements préférés de Marc Bergevin. Philippe Dano, ça, quand c'est même, un lapin de son chapeau. Là,
contre
c'est...
Thomas Fleischmann et Dale Weiss là, au Blackhawks, quelle prise.
Je crois qu'aussi, on avait un choix de deuxième rang.
En plus.
C'est un vol.
L'échange de Pacioretty, quand même, ça nous a amené Tatar et Suzuki, puis un choix de deuxième ronde qui est devenu Romanov.
Effectivement.
Écoute, cet échange-là, pour la profondeur du club, elle est plus qu'importante. Mais moi, mon move préféré de Marc Bergevin, parce que là, on le flatte dans le sens du poil, puis on lance des fleurs à Marc Bergevin, c'est la signature d'Alexander Radulov
oui.
pour un an, 5,75 millions, alors que ça faisait presque 5 ans que Radulov jouait en KHL, qui avait déserté la Ligue nationale et les Prédateurs de Nashville à l'époque pour faire sa marque, sa carrière. On a perdu, la Ligue nationale, en fait, là, a perdu les années de gloire d'Alexander Radulov parce qu'il est revenu dans la Ligue à 30 ans, si je ne me trompe pas. Là,
presque. Oui, à 30 ans.
C'était déjà un Radulov amoché, si on veut, physiquement. Par contre, il avait encore du gaz puis il mange les bandes. Ce qu'il fait encore, même encore cette année avec Dallas.
Selon moi, c'est son meilleur move et son pire move de ne pas l'avoir re-signé l'année d'après pour une question, je crois, de 200 000. C'était vraiment très tight entre les Stars de Dallas et le Canadien de Montréal et on l'a perdu pour quelques
pas grand-chose. Oui. Ouais, effectivement. Ça, c'est décevant. Par contre, mais quand même, cette signature-là, de ramener Radulov, c'était un coup de maître.
C'est vrai, c'était un beau coup de maître. Mm-hmm. Et on ne pourra pas parler aussi de l'échange qu'a fait là Marc Bergevin, celle de Piqué Subban contre Shea Weber. Il va en laisser de l'encre. Il y a eu de l'encre écrit à propos de cet échange-là.
Et puis on dirait que, maintenant, le dénouement de la carrière de Shea Weber vient un peu ternir l'image de cette transaction-là parce que, oui, on savait que Weber était plus vieux que Piqué Subban à l'époque de l'échange. Il l'est encore d'ailleurs. Là. Subban ne l'a pas rattrapé. Mais en termes d'âge, on savait que Weber avait plus de vécu. Il avait vécu plus d'hiver. Par contre, on savait que Piqué Subban était une distraction, visiblement, pour le vestiaire et pour l'entourage du Canadien. Bergevin l'a vu comme une pomme pourrite. Notre Pernel Carl. Donc, il l'a shippé au Prédateur de Nashville en retour d'un gars qui est aimé de tout le monde. Tu sais, Weber, c'est mon nom cool, c'est papa le fun, c'est le gars que tu veux dans ton entourage. T'sais.
Et en termes de rendement, les deux ont été égales pour les équipes. Piqué Subban a porté Nashville en finale de la Coupe Stanley l'année suivante. Nous, je crois que la dernière montée du Canadien en série, c'est une partie de chez Weber là-dedans.
Bien, là, l'année passée, il faut le mentionner, même si son apport sur la glace est moindre, n'est plus ce qu'il était, du moins. Effectivement, même cette année, l'absence de Shea Weber fait extrêmement mal aux Canadiens.
Effectivement, je crois qu'en termes de aussi en rendement dans les bonnes années, je crois que les deux ont été pas mal égales.
Ben oui.
Selon moi, les équipes ont été gagnants et perdants à la fois.
Oui, vraiment. Puis un lancer frappé de la trempe de Shea Weber, il n'y en a pas deux dans la Ligue.
Aucun nom.
Même encore aujourd'hui.
Je crois pas qu'à part Zdeno Chara, je crois pas qu'il y a quelqu'un.
Ça, c'est fascinant. Par contre, hein, on essaie de développer plein de bons défenseurs, mais des défenseurs avec des garnottes de même, on dirait que ça en fait plus. Je sais pas si tu trouves ça, PA. Là, t'sais, des Mathias Norlinder, il bouge bien le puck. Rasmus Dahlin, là, c'est un magicien sur la glace.
Ils sont moins focusés sur la puissance. Il y avait une époque où il y avait des développements de défenseurs, on appelait les gros bœufs qui venaient de l'Alberta, qu'on les appelait. Que pendant à peu près 5 ans, on avait que ça dans le repêchage. C'est les joueurs qu'on repêchait au 10 premiers rounds.
Mais oui.
Puis ces joueurs-là, ça se fait plus. C'est plus des joueurs défensifs avec un contrôle de puck, un peu moins de force, mais avec un tir plus précis.
Tu sais, on parle des Cal Makar, Thomas Chabot. Là, c'est des super, super bons défenseurs, mais ils n'ont pas l'once d'un lancer frappé à la Shea Weber. T'sais. Mais c'est quand même fascinant parce que c'est une époque révolue aussi. Puis Shea Weber, c'était peut-être un des derniers de cette lignée-là. De Hall McInnis, par exemple, de Sheldon Surrey.
Sheldon Surrey, c'est un cône avec un bon lancer.
Ouais, exactement. Exactement. Mais, bref.
Les Drew Doughty aussi de ce monde qui avaient une bonne.
Drew Doughty encore, c'est un des derniers, effectivement.
Duncan Keith aussi qui est.
Ouais, mais Duncan Keith, c'était plus un bon passeur. Brent Seabrook avait un meilleur lancer, mais en tout cas, bref.
Bufflin aussi.
Dustin Bufflin, ben oui. Il manque d'ailleurs aux Jets de Winnipeg.
C'est une autre équipe
qui est décevante, très décevante cette année. Mais là, bref, on a fait un peu le bilan de Bergevin. Allons voir avec son collègue Trevor Timmins. OK, Trevor Timmins a été là pendant beaucoup trop longtemps.
Ben depuis le repêche, le lockout du hockey, celui qui nous a apporté la loterie Sidney Crosby.
Ouais.
Qui, selon moi, le premier move qu'il a fait en termes de directeur du recrutement, c'est d'en être un gros.
Ouais.
C'est d'aller chercher Carey Price quand t'avais à l'époque José Théodore.
Vrai.
T'avais. C'était qui le jeune gardien de but? Mathieu Garon.
Ouais, c'est vrai. Qui était un bon deuxième gardien, mais sans plus.
Mais qu'il y avait plusieurs jeunes joueurs, plusieurs gardiens de but en développement et d'aller le chercher, c'était quelque chose de gros.
Oui, ça c'est vrai. Par contre, rappelons que l'année d'avant, en 2004, il avait repêché un certain Cal Chipchura, dis-je bien, au 18e rang.
C'est vrai qu'il
qui n'a absolument rien fait dans la ligue.
Mais c'est quand même dans cette année-là, il était dans les premiers rounds, je dois l'avouer, Tremont était pourri, mais dans le reste des rounds, il était capable de trouver quelques pépites. Et pour moi, c'était ça que j'aimais de Tremont.
Ouais.
Tu sais, regarde, en 9e round dans cette année-là, qu'il a cherché
2004, ouais.
Il a été chercher Mike Stride.
Mark Stride, mais oui, qui a une belle carrière, qui a joué 780 matchs dans la ligue.
En 5e round, Michael Grabowski, un bon joueur pour un joueur sur le 5e round, ça a été un excellent choix. Puis il est en deuxième.
Mais une éthique de travail très discutable.
Oui.
Mais ça, c'est une autre affaire, là. Mais Grabowski et les frères Kostitsyn. En tout cas, il n'y avait pas la même relation à la neige que les autres joueurs de leur équipe. Alexey Emelin aussi en deuxième ronde, quand même. Ouais. Ça a été un très bon défenseur pendant plusieurs années. Après, ça a été compliqué de l'amener en Amérique du Nord. Il a pris pas mal de temps en KHL. Mais tu sais, oui, Carey Price. Premier choix en 2005, cinquième au total. Ça prenait, comment dire, du culot pour faire ce repêchage-là, ce recrutement-là.
Surtout que tu avais un excellent Québécois tout de suite après qui est venu en sixième ronde, qui était repêché par Minnesota, qu'on a eu par après en l'échangeant contre Guillaume de la Tendresse.
Benoît Pouliot. Oui, très ironie du sort. Par contre, en 2006, David Fisher. Défenseur 20e au total.
Oui, mais ça, c'était un des grands défauts de Timmins à cette époque-là. D'aller chercher les joueurs américains des universités. Les joueurs universitaires américains sont excellents maintenant, mais à l'époque, ça commençait à peine. Le système de développement des joueurs.
Puis même encore là, c'est compliqué parce qu'après leur année universitaire, comme là, on parle cet été de Jordan Harris qui était repêché par le Canadien qui veut pas venir jouer. En tout cas, ses droits vont être échangés. Ça peut être quand même complexe, là, surtout que les gars arrivent à 21-22 ans s'ils décident de tout faire leurs années universitaires, tandis qu'ils peuvent sortir à 18-19-20 ans s'ils jouent au niveau junior canadien, par exemple, et en Europe. Mais oui, David, il y avait vraiment un parti pris pour les collèges américains, Trevor Timmins, et c'est peut-être pour ça que finalement on a eu sa tête.
L'année suivante, ça a été un grand succès d'aller chercher dans l'université américaine.
Ryan McDonough, ouais. Et c'est Bob Gainey qui avait tout fait. C'est Bob Gainey qui avait tout foutu en l'air, hein, quand même.
C'est l'année qu'on a mis Randstad et qu'on a été chercher Scott Gomez.
Ouais, Scott Gomez pour Ryan McDonough.
qu'on était chercher Giunta puis Camilleri.
Ouais, ça c'était aïe aïe. Par contre, il faut mentionner que un peu plus tard dans cette année-là, en 2007, il a repêché Max Pacioretty aussi et Piqué Subban en deuxième ronde. Quand même.
C'était sa grosse année.
C'était sa grosse année, effectivement. Parce que l'année d'après, Danny Christo en première ronde, 2008. Ouch!
Danny Christo, ça fait mal. Oui.
Ouch! Ce gars-là n'a jamais vu l'ombre d'une glace professionnelle. T'sais, en tout cas, Louis Leblanc aussi en 2009, ouais, hein, pour faire ça, plaisir aux partisans.
Oui, ça c'était vraiment un choix de pression.
Choix de pression, mais écoutez, là c'est une autre affaire. Oui, le marché à Montréal est difficile, puis blablabla. Par contre, tu prends le meilleur joueur disponible.
Oui.
T'sais, qu'il soit américain, finlandais, russe, cosaque.
Mais c'est, je ne comprends pas le positionnement de Louis Leblanc dans à cette époque-là. Il était quand même... Oh, il était dans le top 20, il me semble, dans le top 10 même.
Oui, alors qu'il avait joué à Harvard. Il est allé à Harvard après, mais il avait joué avec les Omaha Lancers dans la USHL, qui est une ligue, somme toute, de bon niveau. Là. La NCAA est plus forte. En tout cas, c'était bizarre. C'était bizarre.
2009, c'est une année de catastrophe. Bon. Hey. Jonas Natinen.
Ça, c'est un choix de troisième ronde. Par contre, on peut pas vraiment en vouloir, mais Gabriel Dumont en cinquième. En tout cas, 2010 aussi, Jared Tinordi, gros défenseur, sans mobilité, 22e au total. Un autre flop, issu des collèges américains encore. Par contre, là, faut quand même mentionner qu'il a repêché Brendan Gallagher cette année-là, Trevor Timmins, en cinquième ronde. 2011, Nathan Beaulieu, hein?
Nathan Beaulieu, ça a été... Il y a eu une saison correcte.
Une saison de presque 30 points, si on veut, mais oui. Hey, ce gars-là bouge bien la rondelle. Bon patineur, mais il fait rien d'autre. Dans sa zone, il est pas physique, il a pas de chien, il relance pas super bien. Il patine bien. C'est un beau patineur.
Une distraction pour l'équipe. Tout le temps, aussi, une distraction, toujours des problématiques.
C'est un party animal, là, de ce qu'on entend. Bref, cette année-là aussi, 2011, catastrophique. Là, le reste. Il n'y avait pas de choix de deuxième et troisième ronde, mais en ce long-là, ben, quand même. Nathan Beaulieu en 17e au total, c'était pas fort, chef. Sinon, 2012, Alex Galchenyuk. Écoute, ça, c'était une année très faible en termes de qualité. Neil Yakupov, Ryan Murray puis Alex Galchenyuk, c'était ton top 3 cette année-là. C'est pas fort.
Et pourtant, on disait que c'était une année forte. Yakupov, la première saison, je croyais que ça allait être le prochain.
Avec les Oilers, il y avait un certain potentiel. Ben, il y a certainement encore un certain potentiel, ce gars-là, mais il n'y a pas de tête sur les épaules. Ou, tu sais, il est un peu fou, puis... pas un peu fou, mais tu sais, un peu foufou sur la glace, là. Il est un peu, comment dire, sans conscience. Je sais pas comment l'expliquer. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer, remarque, là, mais de ce que je me rappelle de lui, c'est qu'il patinait comme une poule pas de tête. Un peu à la Sergei Samsonov à l'époque, là.
Ça me faisait penser un peu à l'histoire. J'aurais adoté sur les Nordiques.
Ouais.
C'est une biographie. C'est un joueur russe qui a été cherché par les Nordiques de Québec. Je pense que c'était un gardien de but, puis que là, c'est la première fois qu'il était dans un buffet. Il a perdu la tête complètement.
Voyons donc.
Il est revenu là. Je pense qu'en trois mois, il avait pris une affaire comme 50 livres, 60 livres. C'est, pour lui, il était dans les épiceries puis il était émerveillé. Yakupov, je crois ça. C'est l'Amérique du Nord n'a pas été très bon. Quand ils sont pas bien encadrés, certains joueurs russes, ils peuvent perdre la tête.
Tout à fait. Ben, ça, pour n'importe quel pays, mais.
Oui. Mais.
On dirait qu'il y a une certaine réputation qui les précédait, du moins dans ces années-là. Là, donc, en tout cas, bref. Alex Galchenyuk en 2012, puis sinon, c'était pas grand-chose. Sébastien Kolberg en deuxième ronde, c'était bon rien. Par contre, Sébastien Kolberg a servi de monnaie d'échange pour aller chercher un Thomas Vanek.
C'est vrai.
À la date limite des transactions, il y a plusieurs années. Donc, Sébastien Kolberg, tu vois, Timmins l'a repêché. Ce fut quand même une monnaie d'échange. Puis c'était un des bons moves de Bergevin. Là. Un des premiers moves, c'était...
Le Thomas Vanek allait chercher à la date limite des transactions.
Ouais, quand même, ça a été payant parce qu'il était très, très bon là, pendant la courte période qu'on l'a eu à la fin de la saison puis en série.
C'était pas l'année du miracle de la Calabiche, il me semble.
Ouais, de René Bourque, effectivement. Le miracle de la Calabiche. Hey, puis on a repêché Charles Ludon aussi en 2012.
Oui, des Saguenay Chicoutimi de mon hometown.
Charles Ludon, qui a toujours été un excellent joueur de Ligue américaine, mais qui manquait une seconde, une coche, un coup de patin pour la Ligue nationale. Il y a un certain flair en plus, Charles Ludon, c'est dommage. Mais...
C'est un joueur de cinquième trio.
C'est ça le problème.
C'est un joueur de cinquième trio.
C'est un excellent 13e attaquant. Mais bon. 2013, sinon.
Oh, ça, c'est. McCarron.
On fait le tour, là.
Oui, McCarron. Zachary Fukale, c'est son développement qui a été un peu plus difficile, mais je crois qu'à l'époque, je l'aurais repêché aussi en deuxième ronde assez facilement. Mais assurer Lekkonen en deuxième ronde, pour moi, c'est un succès.
Ah, moi aussi, Lekkonen, quand même, c'est un. C'est un travaillant, c'est un plombier. C'est un plombier efficace quand même. Même s'il n'y a pas nécessairement la touche autour du filet qu'on lui souhaitait. Puis il y avait quand même un certain flair à l'époque junior avec l'équipe de la Finlande, entre autres. Par contre, Zachary Foucalé, on en parle d'ailleurs, qui a remporté son premier match en Ligue nationale avec Washington cet automne. Oui. Bravo, Zach. Je trouve qu'il était biaisé par une équipe beaucoup trop forte pour la Ligue, qui était... Les Moussets d'Halifax dans ces années. Drouin et McKinnon. Drouin et McKinnon, Martin Furk, Jared McIsaac en défensive, puis t'avais Zachary Foucalé. Ce club-là était vraiment très, très fort dans les rangs juniors. Donc, oui, Zach, peut-être que c'était un bon gardien, un des meilleurs selon la centrale de recrutement, mais deuxième ronde, c'est trop tôt. C'est trop tôt.
Et on a passé à quelques lettres proches d'avoir notre propre Coco Crips.
Connor Crisp. Aucun lien avec le joueur de balle.
Je n'ai jamais essayé de Connor Crisp.
Hey, 2014, Timmons aussi a un bon coup d'épée dans l'eau là, en Nikita Sherbak. Puis ce qui est dommage, c'est que pour repêcher Nikita Sherbak... On a avancé, puis au 26e rang, là, on a hésité, je me souviens bien, il y avait trois joueurs russes dans la fin de la première ronde qui devaient être repêchés. Ils ont été repêchés en fin de première ronde. Donc, Timmins hésitait entre Nikita Sherbak, Ivan Barbachev, qui a une excellente saison en ce moment avec les Blues de Saint-Louis, et un autre joueur russe qui s'appelle Nikolai Goldobin, qui a joué un petit peu avec les Canucks de Vancouver récemment, mais qui il a déserté, là, on le voit plus. Qui avait un certain potentiel aussi. Je pense qu'il avait été repêché par les Sharks de San Jose. Parce que là, je me trompe peut-être. Bref, dans cette année-là, gros flop avec Nikita Sherbak. On pensait vraiment que ce gars-là avait un certain talent, mais il patine comme une boîte à lunch. Il n'y a aucun coup de patin. Et
pourtant, dans les ligues mineures, il y avait un très bon patin. C'était vraiment reconnu pour avoir un bon bâton puis avoir un bon coup de patin.
Oui, mais ça n'a pas suivi. Les bottines n'ont pas suivi. Là.
Non, il y a eu... des fois, il y a certains joueurs qui... selon moi, il a capé vraiment en ligue mineure, puis après ça, son développement s'est arrêté.
Tu sais, Nikita Sherbak a 25 ans. Là. Ouais. Il n'est pas désuet, il joue en Slovaquie en ce moment. Ouais. Bref, dommage. Par contre, hey, encore là, Timmins, bon choix, bon œil, du moins, un certain flair en fin de ronde, en septième
Jake
ronde.
Evans.
Jake Evans, des collèges américains encore. Hein? Voilà.
Mais rendu à septième ronde, j'ai toujours tendance à penser qu'il prend dans un grand sac, puis là, il pêche.
Il pige, ouais. Des fois, ça marche.
Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas.
Hey, 2015 aussi, décevant. Encore Noah Yolson en première ronde. Mais ce gars-là, par contre, Yolson avait vraiment un beau potentiel. Les blessures l'ont matraqué, littéralement. Les genoux, les chevilles. Il a passé par une collection de blessures au cours de sa carrière. C'est dommage parce que c'est un défenseur physique assez imposant, avec une bonne mobilité quand même. Il a joué Team Canada Junior. T'sais, c'est quand même un gars avec une certaine notoriété, mais on a laissé partir.
Mais c'est trois années, 2016, 2015 et 2014. Depuis le début, on regarde les drafts faits par Trevor Timmins. C'est toujours le deuxième round qui est toujours le plus payant pour lui.
Ouais, s'il a des choix, là, si le gérant échange pas ces choix-là. Là. Mais
c'est,
oui.
C'est trois saisons qu'il n'y a pas de choix de deuxième round. Soit qu'il repêche très tard en troisième ou en début de troisième. Moi, c'est vrai, en 2014, Brett Ledburn, Learnout, mais qu'on a...
Ouais, Learnout aussi, il n'est pas resté. Là, il a joué 21 games dans le show. 2016 aussi, hein? Ben 2016, parce que... Écoutez, ça, c'est un excellent draft de Timmins, à mon humble avis. Par contre, Bergevin ne l'a pas aidé.
Non.
Bergevin s'est tiré dans le pied avec son move-là. D'ailleurs, on parlait des bons coups et des mauvais de notre grand Marc tantôt. Je pense que c'est son pire, ça. Un de ses pires. L'échange de Sergachev contre Drouin, là.
Oui, c'est peut-être...
Mais écoute, c'est un des pires. Sinon, le pire. À part les signatures, là,
parle.
Oui,
à part les signatures.
Ouais.
Ouais, c'est à vous que Jonathan Drouin contre Sergachev, surtout que c'était une année... Il y avait quand même... Drouin a eu une excellente saison auparavant.
Excellente. Il y avait comme 50 points, puis il y avait déjà des problèmes avec l'organisation. Ouais. Il s'est mis Steve Yzerman à dos. Écoute, c'était pas une excellente saison. Il n'avait rien prouvé encore.
En série,
là.
Il a été... C'est une de ses bonnes séries qu'il y a eu.
14 points en 17 avec Tampa Bay, mais tu sais, il y avait des ressources, il y avait un Steven Stamkos avec lui. Tu sais, l'année de l'échange, là, l'année précédente l'échange, Jonathan Drouin, c'est 21 buts, 32 passes, 53 points en 73 matchs. Hey, ça va. Ouais. Belle saison. Par contre, il est moins 13. T'sais, aussi, ce gars-là joue pas dans sa zone. On le sait. T'sais. Fait que pour un joueur unidimensionnel, un attaquant en plus, alors que les défenseurs ont une plus grande valeur, un défenseur de 18 ans que tu viens de repêcher, tu l'échanges. Tu lui donnes même pas 10 games dans le national. Aïe aïe. Non, pour vrai, ça avait pas de bon sens. Sergachev est un def top 4 dans toutes les équipes de la Ligue nationale en ce moment.
Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est vrai que ouais, ton argument est solide.
Quand même. Hein? Bref.
À l'époque, on pensait qu'on avait une bonne défensive. Plusieurs joueurs qui allaient venir éventuellement placer des spots. Et on avait trouvé des joueurs aussi. Ah, un autre bon coup de Bergevin. Ça a été cherché les Oilers.
Jeff Petrie. Pour un choix de deuxième ronde, hein? Ouais. Quand même. Cette année, par contre, Jeff Petrie... Jeff, on dirait...
Ouais, mais Canadien en entier, je crois.
Jeff a besoin de vacances, là. Ouais. Jeff a eu un court été, en plus, là. Son parcours en série, tu sais, les yeux, il était piqué de partout. Il est blessé, il joue blessé vraiment beaucoup, Jeff.
Ouais.
On lui souhaite une pause du temps des fêtes salvatrice. Voilà. On continue... Le CV, la feuille de route de Trevor Timmons. On est rendu en 2017, PA, alors qu'on a un joueur qui est encore actif avec l'équipe en ce moment, Colin.
Monsieur, 3 buts à sa première...
Monsieur, je casse tout à ma première game, mais je fais plus rien pendant un an. Ryan Pilling, encore là, des collèges américains, hein? On voit la tendance de notre Trevor Timmons national. Ryan Pilling, avec l'équipe nationale américaine aussi, avait très bien fait. Encore là... personnellement, je voyais déjà ses lacunes. Sans dire qu'il est unidimensionnel, tu vois que ce gars-là a pas la... Comment dire? La répartie puis la vitesse d'exécution. Le facteur main-œil, mettons, là, c'est pas le meilleur en carrière. Il a pas les yeux tout autour de la tête, contrairement à un Nick Suzuki, par exemple. Donc, Peeling, écoute, nord-sud, ça va, sans fantaisie, a pas un tir incroyable, a pas un jeu de passe incroyable, a pas un coup de patin non plus incroyable. C'est un
Maxime Lapierre 2.0.
C'est clairement un Maxime Lapierre 2.0. Puis peut-être que même Maxime Lapierre avait plus de talent en tir
de
barrage aussi. Ouais. Mais, non. Ryan Pilling, là, ce sera un éternel joueur de troisième trio au mieux.
Ouais.
Middle six, là. Ouais.
Joueur que tu vas échanger éventuellement comme un choix de quatrième rang.
Genre, effectivement. Puis sinon, dans cette année-là, ben, y a un gars qui est quand même encore un certain prospect dans l'organisation, en Josh Brook.
C'est vrai.
Josh Brook, choix de deuxième ronde des Moose Jaw Warriors à l'époque dans la Ligue de l'Ouest. Il a joué aussi avec Team Canada Junior. Écoute, on sait pas ce qui peut arriver avec Josh Brook. On avait repêché aussi en troisième ronde un Cale Fleury qu'on a laissé partir.
Ben oui, dans le choix. Présentement, il est encore avec le Kraken de.
Je pense qu'ils l'ont comme envoyé au balotage. Ouais. Hein.
Allons voir, qu'est-ce
que devient Cale Fleury? Cale Fleury, qu'est-ce qu'il devient, Cale?
Non, mais.
Cale Fleury, qui est le frère cadet de Aiden Fleury.
Charlotte Check. Il est présentement avec les Charlotte Checkers. Claim an expansion by Seattle Kraken. Il est encore avec le Kraken. Il est avec les Charlotte Checkers.
Je pense qu'il n'a pas été réclamé.
Non,
au balotage. Voilà. Sinon, on est rendu en 2018. Puis là, ça devient intéressant.
Il y avait des choix, là.
Il y avait, cette année-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 choix au repêchage, notre Trevor Timmons, en 2018. Et il a fait de sa première sélection. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un choix dans le top 3, là. La dernière fois, c'était Alex Galchenyuk.
Hein?
On décide de repêcher selon nos besoins, au troisième rang. Parce qu'on manque de centre, on décide d'opter pour un jeune Finlandais qui a l'air d'un bébé girafe. Jesperi Kotkaniemi. Ouch.
C'est qui le joueur qui a été repêché juste après par Détroit qu'on pensait qu'elle allait atterrir à Canadien?
Philippe Zadina.
Zadina.
OK, Philippe Zadina, c'était pas une meilleure option. Puis, écoute, j'aurais peut-être repêché Zadina. Je suis pas non plus directeur du recrutement du Canadien. Par contre, au cinquième rang... Qui est au cinquième rang, Pierre, cette année-là?
Au cinquième rang...
Par les Sénateurs d'Ottawa.
Il est crime. OK, oui, j'aurais pris ce gars-là. Anytime.
Hein?
Brady Tkachuk
est disponible, OK? Puis, connaissant l'historique de son père Keith et de son frère aîné Matthew, tu peux pas vraiment te priver des services de Brady Tkachuk. Surtout qu'il cassait tout dans les réseaux universitaires américains. Là, tu tripes les Américains, Trevor. T'en as un, t'as le meilleur disponible depuis un calisti de bout. Mais tu le repêches pas.
Puis,
franchement.
En huitième, en septième, Quinn Hughes.
Hey, Quinn Hughes, man.
Et crime qu'il aurait bien fait présentement, là.
Ouais. Et non, ça, c'est... D'après moi, après plusieurs repêchages médiocres, on s'entend, là, je pense que c'est le repêchage... En tout cas, cette première ronde-là, cette sélection-là, qui a coûté la job à Trevor Timmons. Entre autres. C'est comme la dernière goutte qui fait déborder le vase.
Ouais, c'est peut-être une de la dernière goutte, mais en même temps, on a Christian Dvorak grâce à ça.
Ouais. Écoute, Christian, c'est pas un sauveur.
C'est pas un sauveur.
Par contre, il a quand même repêché Alexander Romanov avec le deuxième choix qu'on avait acquis pour Max Pacioretty avec Vegas. Romanov, hey! Je suis tellement ambivalent face à Romanov.
C'est un jeune défenseur, il a même pas encore...
Non,
il,
c'est ça.
Il reste encore... moi, je donne encore un bon 2 ans de développement.
C'est comme un étalon sauvage que tu essaies d'amener à l'écurie, mais il veut rien savoir. On dirait que, ben, selon son talent, là, parce qu'il y a vraiment un potentiel intéressant, il tire pas assez non plus. On dirait que... Je sais pas qu'est-ce qu'il fait de pas correct, mais qu'est-ce qu'il fait de bien non plus.
Il y a une autre personne qui devrait partir éventuellement. Duchamp aussi devrait pas rester très longtemps à Montréal. À la fin de la saison, selon moi, que ça va être le grand débarras. Le nouveau DG va arriver, il va choisir un gars pour lui qui va fitter avec sa manière de faire une équipe. Puis yes. Duchamp devrait partir.
Je pense aussi. Effectivement. On continue 2019, Cole Caulfield, alors que plusieurs équipes l'avaient snobé, hein? Il était prévu pour à la fin du top 10.
7-8 à la position.
7-8, oui, c'est ça. Finalement, on l'a sélectionné au 15e rang, notre petit attaquant.
J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. Il y a eu je peux pas nier qu'il y a eu des excellentes fins de saison l'année passée. C'est clair et certain.
Il y a eu des séries fantastiques pour un jeune de 19 ans. Là. C'était fantastique. Par contre, là, je pense qu'on est en train de scraper son développement.
Qu'est-ce qu'on devrait faire, le laisser à Laval ou...
En fait, on l'a peut-être ramené trop tôt. Je sais pas. Il a pris quoi, une semaine ou deux? Là, il brûlait tout à Laval. C'est sûr qu'il va tout brûler à Laval. Ce gars-là a un tir des ligues majeures. Juste que s'il n'y a pas d'option de tirer dans l'enclave, dans la Ligue nationale, il marquera pas, tu sais.
Moi, je le dis qu'on devrait aller chercher peut-être un vétéran, à peu près un allié droit qui a à peu près fait un tutoriat pour le jeune. Pour le développer, un peu qu'à...
Un tutorat, OK. Je me demandais ce que tu voulais dire. Ouais, pas de trouble.
Un bon tutorat, un peu comme Sidney Crosby puis Mario Lemieux a eu à l'époque.
Ah oh, oui.
D'avoir cette idée-là, puis je pense que c'est le moment d'aller chercher un vétéran joueur, puis de faire un peu... Qu'est-ce que Corey Perry était l'année passée?
Un full.
Et d'encadrer d'un jeune comme Cole Caulfield.
Ah oh, oui, un genre de Braden Shen, là, tu sais. C'est un peu trop fort. Ça va demander beaucoup de choix au repêchage et tout ça. Mais oui, effectivement.
J'irais chercher un vieillard en fin de saison. Un genre de Joe Thornton ou un Patrick Marleau.
Spezza, peut-être.
Spezza, c'est un bon choix.
OK. En tout cas, ouais, pas fou. On a repêché aussi de Mathias Norlinder en 2019, qui montre de belles choses jusqu'à maintenant. J'ai hâte de le voir. 2020, c'est Caden Gooley qui avait été le premier choix. J'ai hâte de voir aussi côté développement ce qu'on va faire avec.
Trop tôt pour
en juger, effectivement.
Pour 2021-2020, je crois que c'est trop tôt. À part peut-être Logan Mailloux. On se posait des questions sur est-ce qu'il va faire la ligue.
C'est le repêchage le plus controversé. Puis ça aussi, hein, on s'entend, c'est peut-être un peu ce qui a coûté la job à Bergevin et Timmins. Là, tout le monde a levé le nez sur Logan Mailloux parce qu'on s'entend, là, il y a eu des inconduites sexuelles, ouais. Etc. C'est un choix plus que controversé alors que pourquoi nous, Montréal, on décide de donner une chance à ce gars-là? Écoute, l'encadrement, puis là, on est allé d'une déclaration sociale et philanthropique comme quoi on va peut-être bien l'aider, notre Logan Mailloux. Je comprends pas cette sélection-là. Surtout que c'était un bon défenseur, mais c'est un choix de première ronde. Tu peux attendre en deuxième, au pire, s'il est encore disponible. Là. Troisième même, tu sais. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. On sait pas non plus s'il va être vraiment bon, Logan Mailloux.
Présentement, dans les ligues mineures, Logan Mailloux est présentement...
Il y a une Christie de saison à London Knights. Là.
Ouais, il est vraiment bon. Ben, c'est...
Il joue, par contre, dans la ligue junior de l'OHL. Il joue pas en OHL. Ouais. Ben, il y a pas... Non, c'est en 2019-2020. Il joue pas en ce moment. C'est vrai, il avait été banni de la Ligue de l'Ontario.
Ah, c'est vrai.
Vrai. Voilà. Il joue pas partout. Fait que bon. Ça aide pas son développement ben de l'avoir repêché. Bref, en tout cas. Il y a un examen de conscience à faire, Logan. Logan, on te le souhaite. Donc, ça fait un peu le portrait. On a passé du temps, là. On a fait 10 ans de feuilles de route, repêchage, à l'ère de Trevor Timmons. Mais là, PA,
oui.
On va parler. Parce que effectivement, on va avoir un successeur à Trevor Timmons. Puis on parlait peut-être de certains candidats québécois. On s'en reparlera quand ce sera un peu plus détaillé de ce niveau-là. Mais pour Marc Bergevin,
oui.
La liste de candidats là, est exhaustive. Il y a plusieurs noms qui sortent à tous les jours, des noms farfelus, d'autres un peu plus, comment dire, rationnels. D'après toi, là, PA, selon tes pouvoirs de devin,
oui.
Toi qui consultes l'oracle quotidiennement.
Non, je vais à la pitié à tous les semaines. Je consulte la pitié et je suis maintenant un grand devin du hockey. Ça.
D'après toi, là, oui. Je t'ai sorti une liste tantôt là, de
oui.
Noms potentiels. D'après toi, qui sera le prochain directeur général du Canadien de Montréal?
J'irai pas par le nom. Je veux pas avoir un joueur qui a fait beaucoup, une grande carrière dans la ouais. Ligue nationale.
Okay.
Je trouve que Patrick Roy a eu un coach, a eu une tête au-dessus de lui, puis ça allait très mal.
Mm.
Je crois pas qu'à Montréal, c'est un bon fit. Excuse-moi, Patrick, si tu nous écoutes. Je t'adore, tu es mon idole de jeunesse, mais malheureusement, je veux le voir plus. Je veux le voir vraiment qu'il a tous les pouvoirs.
Bien, par contre, avec l'Avalanche, il était VP aux opérations et entraîneur. Là, on le voit comme un poste de GM.
Ouais.
Là, est-ce que lui va vouloir prendre la job à Ducharme aussi parce que ça il s'entend pas bien avec Ducharme? Exemple, tu sais.
Bien, c'est clair et certain que n'importe qui va être DG, il va faire une offre à. Il va checker qu'est-ce que l'entraîneur offre.
C'est sûr.
Et selon moi, c'est peu de chance que Ducharme reste.
Mm-hmm.
Mais moi, un de mes candidats préférés, c'est un joueur qui a beaucoup d'études, qui a été à McGill, qui a fait une bonne carrière, puis qui a un bon esprit d'analyse. Je dirais que Mathieu Darche,
qui étudie en droit. Hein, si
qui étudie en droit à McGill, qui a continué avec plusieurs comités.
L'Association des joueurs, entre autres.
Selon moi, c'est le genre de joueur que je veux voir à Montréal, qui a un esprit d'analyse parfait, puis pour moi, c'est ça que je veux avoir à Montréal. Okay. Mathieu Darche a un choix intéressant.
Okay.
Je sais qu'on parle beaucoup de Monsieur Maiden, junior.
Ouais, Martin Maiden. Junior qui est dans l'organisation des Ducks d'Anaheim. Un gars qui a travaillé dans l'ombre énormément, là, de ce que je vois. En tout cas, il a été quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi à Anaheim, lui? Il était adjoint au DG, c'est ça, effectivement. Bref, lui aussi il a étudié à Montréal, ou HEC, par contre. Ouais. En tout cas. Effectivement, ça prend un candidat bilingue, hein? On le sait. À Montréal, ça prend ça. J'ai l'impression que ça va être Casso, moi. J'ai l'impression que ça va être Patrick.
T'as l'impression que ça va être Patrick?
Ouais. Je pense que c'est le bon timing, là. Et puis je pense qu'on va... Puis, il est quand même drôle, il est sorti publiquement pour dire ben, « Qu'est-ce qu'ils perdent à m'essayer aujourd'hui?
Hein? » J'avoue que ça, c'est un bon call.
Mais quand même. Il a gagné le Jack Adams à sa seule carrière, à sa seule saison comme entraîneur dans la Ligue nationale. Tu sais?
Ouais.
En tout cas. Mais on dirait que moi aussi, je le verrais plutôt comme un entraîneur. Daniel Brière, Félix nous mentionne que Daniel Brière aussi est un candidat. Ouais, écoute, là...
Ben, ça sera une bonne suite de candidats avec des beaux cheveux.
Par contre, Daniel Brière est vraiment pas prêt. Si on parle de son CV, non. Là, je pense qu'aux dernières nouvelles, il est GM d'une équipe de East Coast League. Je pense que les Mains, je sais plus, bref. Où il était à Laval maintenant, je sais plus. Qu'est-ce qu'il fait Daniel Brière à cette heure? Qu'est-ce qu'il fait Daniel Brière? Je vais aller voir. Mais bon, moi, je trouve que... Là, en ce moment, c'est le temps d'essayer Casso. Puis effectivement, regarde, ils se planteront. Ça change quoi, tu sais?
S'ils essayent Casso, selon moi, ça t'offre pas plus que 2 ans.
Hey, moi non plus, je pense pas, mais ça serait quand même très...
Ça va, pour le show, j'aimerais
très
juste...
Très divertissant.
Ouais.
Ça serait très, très, très divertissant. Hey, on se laisse là-dessus, parce que là... Faut aller en publicité, puis il faut parler de baseball après. On a un programme immensément chargé. On aurait pu faire 4 heures d'émission, je pense, puis on aura encore du sujet. Donc, ouais, écoute, moi, je pense que ça va être Casso. Toi, tu penses que ça va être Mathieu Darche. Ouais, à Mathieu... voir, dans le cas, c'est deux Québécois.
Je veux que ça soit Mathieu Darche, mais je pense que ça va être Patrick Roy. Je crois
All right. All right. Hey, on s'en va en pub. Et après ça, on va écouter Soons et la pièce Baseline, parce qu'on va parler de baseball. Avez-vous vu le lien? C'est conduite antisportive!
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie, j'arrive. C'est tous les jours de la semaine, de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Thank you.
Vous êtes de retour à Conduite Antisportive, édition du mardi 30 novembre. Écoutez, PA, on a parlé beaucoup de hockey, hein, ici, là. On a parlé, quoi, un 40 minutes de hockey?
40 minutes de repêchage.
Donc, on est de retour, mais pour jaser de baseball. Parce que là, c'est la période des agents libres, hein?
Et c'est une date limite prochainement qui va arriver pour la période des temps des fêtes qui va empêcher toutes les équipes de signer des nouveaux joueurs jusqu'en janvier. Et présentement, les signatures, il y en a en tabarnouche.
Ça tombe, là, comme des mouches.
Présentement, est-ce que tu as des signatures préférées en ce moment?
Ouf! Ben, en fait, aujourd'hui,
ouais,
la signature de Javi Baez avec les Tigers de Détroit. Ah. Hey, c'est un de tes joueurs préférés en plus.
Oh, c'est un de mes joueurs préférés. Hey,
mais
les
moi aussi,
Détroit,
je l'adore. Mais hey, que c'est cool. Je trouve ça satisfaisant. Là.
Ah, mais moi, c'est juste le diamant des Tigers pour la prochaine saison. Que c'est beau.
C'est du beau, beau, beau stock. Là.
C'est avec Tuckerson qui devrait commencer au premier but.
Qui est un ancien choix de première ronde au repêchage amateur.
Selon moi, le candidat pour la recrue de l'année qui va se battre entre lui et Witt Jr. à Kansas City.
Hey, je crois, là, même si on parle beaucoup des Rangers qui dépensent sans compter en ce moment, les Tigers seront peut-être le club le plus amélioré pour la prochaine saison. Surtout que c'est un club très, très jeune. Eduardo Rodriguez qui a signé là, qui était un des meilleurs lanceurs disponibles.
C'est un des meilleurs, des meilleurs lanceurs disponibles qui signe à
moment,
Détroit.
Qui signe à Détroit.
C'est magnifique. Mm-hmm. Puis en plus, dans les échanges, j'ai été chercher Tucker Barnhart qui a fait
Moi,
j'adore ce receveur-là. Ouais. Les Reds de Cincinnati avaient un excellent catcheur en Tucker Barnhart. Cincinnati, ça va peut-être aussi une petite catastrophe ambulante prochainement qui pense échanger Luis Castillo. Donc,
en plus que là, ils dorment au garde en ce moment sur le marché des agents libres.
Bon, je crois qu'ils sont en période de négociation avec Castellanos, mais autrement, il n'y a plus rien d'autre qui va apparaître chez les Reds.
Mais oui, tu me posais la question. Je pense que Baez, c'est ma signature préférée jusqu'à maintenant. Elle vient d'apparaître en plus, là, on vient d'avoir les détails. C'est 6 ans, 160 millions. Toi, PA, jusqu'à maintenant, là, ta signature préférée. Ça fait une semaine que ça n'arrête pas. Là. À chaque jour, on a du matériel.
J'ai-tu droit à un échange?
Oui, ça peut être un échange.
Adam Frazier, marineur de Seattle.
Seattle, oui.
Colin, que j'aime cette signature-là. Et en plus, Robbie Ray qui vient de signer là-bas, c'est parfait. Il manque encore un ace. Un as partant avec les Seattle pour que ça soit pour moi mon équipe préférée. Peut-être un gars au troisième but. Mais non, Toro va faire une belle job là-bas.
On semble, en tout cas, donner le poste à Toro. On lui fait confiance, là, visiblement, du côté des Mariners. Hey, moi aussi, j'aime vraiment beaucoup les Mariners, surtout l'année prochaine à voir avec les jeunes aussi. Logan Gilbert, il y a comme plein de jeunes. Tu parlais du Diamond, Ty France, avec J.P. Crawford. J.P. Crawford, qui est le meilleur shortstop défensivement de la ligue.
Pas de très loin,
mais si on passe pas au bat, là.
Ouais. Il dirait qu'il est magnifique
à
la défense.
Il est super cute.
Fraser va être au deuxième but.
C'est ça.
Moi aussi, dans les jeunes, Mitch Haniger, Jared Kelenic.
Ah oui.
Ça va être.
Puis là, si on a Cal Lewis en santé, en tout cas, ça semble compliqué dans son cas, mais Seattle sont à surveiller l'an prochain.
On parlait des Texas Rangers qui dépensent.
Ouais. On va faire leur leur biopsie. Disons
qu'est-ce qui se passe, les Rangers du Texas? Vous avez fait des signatures immenses, c'est trop de bonheur. Vous avez prenez les Tigers, ils font des grosses signatures présentement, mais ils ont une base solide.
Ouais.
Vous avez rien. Vous avez vos bons joueurs sont présentement dans le double A ou dans les ligues recrues. Il n'y a rien de bon présentement. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui se développent, qui commencent à bien frapper. Le seul peut-être que vous avez, c'est le falafel volant, puis vous le remplacez par.
Il
devrait être échangé éventuellement.
Peut-être
mais
même aux Yankees. Mais oui, le falafel volant.
Vous avez des signatures, mais qu'est-ce qui vous manque présentement? Il vous manque trois bons lanceurs, il vous manque un champ, il vous manque un troisième but, il vous manque un premier but, il vous manque un enclos total. Signez ça, peut-être vous allez arriver en deuxième place. Vous avez une division ultra difficile. Houston qui ont rajouté, ils ont juste perdu, ils vont perdre probablement Correa, probablement. Mmh. Mais il y a d'autres joueurs qui s'en viennent, ils ont renforcé leur enclos de lanceurs. Vous avez les Mariners qui se sont améliorés, les Angels qui sont jamais trop loin, qui manquent juste un ou deux lanceurs pour être vraiment féroces.
Écoute, là, on
vous allez finir cinquième malgré ces signatures.
Ben non, les Angels. Je trouvais ça drôle. Noah Syndergaard, là, tu parlais des Angels, a mentionné hey, Mike Trout, c'est le plus beau talent de notre génération, puis j'aimerais ça lui faire gagner une bague.
Ouais.
Et Noah, t'as des croûtes à manger, mon minou. Là.
Ben, c'est quand même le meilleur trio de lanceurs qu'ils ont depuis un méchant bout. Avec Otani, Syndergaard, puis Sandoval.
Ouais. Mais en tout cas.
Il manque encore quelques bras là-bas, mais ça s'en vient. Bref. Sinon, dans mes équipes, je trouve qu'ils sont ultra améliorés. Toronto.
Ouais. Hey, tu dis.
C'est magnifique. Je crois que c'est l'équipe qui va gagner la division. C'est cette année que ça arrive.
On en parlait pendant la pause, effectivement. Écoute, on parlait de leur rotation de lanceurs. Donc là, tu as re-signé José Berrios la semaine dernière.
Yep.
Tu viens d'ajouter Kevin Gausman qui a gagné le Cy Young.
Non, il n'a pas gagné le Cy Young.
Non, c'est Robbie Ray qui avait gagné le Cy Young.
Non, mais lui, il jouait dans National. Gausman dans National, était... c'était.
C'est pas Gausman, c'est. Hey,
c'est Wheeler qui a gagné. Non.
Hey, attends.
Non, c'est qui qui a gagné?
Après moi, c'est Kevin Gausman.
Attends, Cy Young?
Peut-être pas le Cy Young. Hey, on jase.
On jase. Trophée Cy Young.
C'est ça. Robbie Ray a gagné dans l'Américaine.
Corbin Burns,
oui, avec les Brewers de Milwaukee. Non, mais en tout cas, je pense que Gausman est arrivé.
Il était dans le top 5, oui.
Bref. Par contre, on s'entend, il y a eu une grosse saison dans sa carrière.
Il y a eu une grosse saison, mais ses statistiques avancées sont magnifiques. Selon moi, c'est vraiment. Tu sais, les darlings de la Sabermetrics, c'en est une. Mm-hmm. C'est vraiment un joueur que tout le monde veut prendre parce que il va avoir quand même un bon whip, on va avoir une bonne era, mais ses qualités en termes de lance. Ses statistiques avancées sont vraiment superbes. Sont impeccables. Un genre de joueur que tu vas avoir dans ton équipe. Puis. Moi, sérieusement, c'est une signature que j'ai plus capotée jusqu'à présent.
Oui. Moi aussi, Kevin Gausman, c'était un des... En tout cas, sinon, avec peut-être, justement, là, Eduardo Rodriguez, les deux lanceurs, peut-être avec Robbie Ray qui a justement gagné le Cy Young, mais tu sais, ce trio-là était probablement le trio de lanceurs le plus convoité dans cette période des agents libres.
Effectivement, mais tu sais, c'est pas parce que t'as un lanceur Cy Young que tu signes un joueur Cy Young que ton équipe est améliorée. Je pense aux Mets, présentement, qui viennent de signer Scherzer, qui ont un excellent... Ouais. Des excellents partants, ça. Un des meilleurs partants que j'ai pu voir présentement. Je pense que les Padres vont les battre cette année avec le retour de Clevinger.
Mm-hmm. Dans la division, effectivement. Après, Max Scherzer a 37 ans.
Ouais.
Puis, on l'a vu avec les Dodgers en série mondiale, son bras était mort. Il y avait plus de jus. Il y avait pas lancé. Il était juste mort. Je pense le terme en français, j'ai de la misère à le trouver, mais c'est un dead arm. Il y avait pas de bras.
Faiblesse au bras.
Puis tu sais, c'est un ancien. Il a gagné deux fois le Cy Young, mais tu sais...
Mais écoute. Les Mets sont quand même... C'est leur problème, c'est qu'ils vont avoir des excellents lanceurs, mais qu'ils vont perdre parce que les joueurs n'ont aucune production. Puis que ton enclos de receveurs était pourri. Là, ils n'ont pas trop amélioré. Ils ont perdu Aaron Loo, qui était un de mes jeunes releveurs que j'aimais bien, mais là, il reste Edwin Diaz, qui s'est beaucoup amélioré depuis deux ans, comparativement à il y a trois ans. Ouais. Mais là, ils ont signé Starling Marte.
Oui, ils ont signé Mark Canna aussi.
Mark Canna. Il y a un troisième qui ont signé. Il me semble que c'est Rodriguez. Je pense que c'est Rodriguez, le troisième qui ont signé.
Peut-être.
Je reviens dans quelques instants. Oui, c'est Rodriguez. Eduardo Escobar,
oui. Ancien des Diamondbacks. Oui, écoute, les Mets sont actifs. Les Mets ont besoin de frapper.
Ouais.
Un gars comme Starling Marte, par contre, ça dynamise un alignement. Tu sais, dans les trois premiers frappeurs, j'espère que Starling Marte va frapper dans les trois premiers frappeurs. Peut-être qu'on pourrait mettre Pete Alonso en quatre, comme ça. Marte est souvent sur les buts. Là.
Alonso en quatrième, Starling Marte en deuxième, Nemo en premier.
Nemo 1, Marte 2, peut-être qu'un genre de Michael Conforto, Lindor 3 ou 5, 6.
Mais le problème présentement, c'est que t'as personne au deuxième but.
Aussi.
C'est présent. À part, t'as Robinson Cano qui revient. Est-ce que tu fais confiance à Robinson Cano?
Pas vraiment. Ouais. T'sais, même dans le champ extérieur, il y a Jeff McNeil. En tout cas, bref, on verra. Sinon, on fait le tour encore des signatures.
Gary Kluber qui a signé avec Tampa Bay. Tampa Bay qui sont capables de faire revivre des anciens lanceurs, c'est vraiment leur qualité. C'est vraiment.
Exact.
C'est
pour faire des avec Charlie Morton récemment.
Charlie Morton, il y a Rich Hill.
Rich Hill a fait super bien fait. Michael Wacha.
Ouais. C'est des résurrecteurs de bras.
Exact.
Et j'espère que la magie va opérer cette fois-ci pour Kluber parce que c'est un excellent bras qui a bien performé avec les Yankees.
Vraiment. Vraiment. Sinon, dans les lanceurs, un ancien des Mets, justement, Steven Matz.
Oui, qui a signé avec Saint-Louis.
Qui a signé avec les Cards. Ça aussi, Steven Matz, ben, il a lancé avec les Blue Jays l'année passée. Très bien fait. Très belle saison, quand même, pour un, mettons, un troisième lanceur dans ta rotation. Évidemment, là, on parlait des Rangers. On n'a pas fait l'état de toutes leurs signatures, mais... On parle de John Gray,
oui,
qui est un très bon lanceur gaucher.
Qui quitte le Coors Field, qui devrait peut-être l'aider dans ses statistiques.
C'est un stade de lanceurs énorme, un très grand stade, celui des Rangers, un stade tout neuf en plus. Donc oui, clairement, John Gray sera avantagé, va visiblement avoir une moyenne de points mérités sous la barre des 4. Ça, c'est une prédiction assez, comment dire, conservatrice.
Ouais.
Sinon, évidemment, les Rangers ont signé Marcus Semien. C'est une des plus grosses signatures du marché à date. Joueur d'Areco qui peut jouer au deuxième but aussi, qui est un peu chancelant en défensive, mais qui frappe comme très peu de joueurs d'avant-champ. Surtout que là, certes, il joue avec les Blue Jays. Les Blue Jays ont eu trois stades dans la même saison, trois stades à circuit. Il joue aussi dans la division Est de l'Américaine où tu as des stades pour enfants, donc le stade du Fenway Park, le Yankee Stadium, le nouveau Yankee Stadium.
C'est définitivement, ça va l'aider. Mais surtout, quelque chose que j'avais peur, c'est que
Seaman
comme deuxième but, c'est excellent comme shortstop, un peu moins.
Ouais, vraiment pas.
Et là, avec les Rangers, je le voyais comme shortstop. Et là, avec la signature de Corey Seager.
Voilà.
D'ailleurs, moi, selon moi, il devrait son frère devrait le rejoindre.
Kyle?
Ouais, Kyle devrait arriver avec les Rangers.
Bon point, parce qu'on parlait justement des Mariners tantôt et Abraham Toro qui a le poste de troisième but et Kyle Seager est le troisième but des Mariners depuis vraiment longtemps.
Puis là, il devrait arriver aux Rangers. Puis peut-être, je verrais peut-être un Kershaw aussi là-bas.
Ça se peut très bien. Donc oui, les Rangers ont été très actifs. Sinon, dernière signature aussi, il y avait Yimi Garcia, un releveur que t'aimes bien avec les Blue Jays, ancien des Marlins, qui a très bien fait. Puis c'est pas mal ça pour, tu sais, on est allé vraiment gros.
Il y a Waka qui a été signé avec Boston. C'est aussi des joueurs qui vont être de retour. Mais c'est des équipes aussi qu'on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Les Yankees ont rien fait présentement. Dodgers ont perdu beaucoup de joueurs sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Là, j'avais pensé à Corey Seager. Ah, OK, il vient de perdre la position shortstop, mais j'ai pensé, c'est vrai, ils ont tué Turner.
Ouais, finalement. Puis sinon, dernière petite signature, là, qui a été finalisée hier ou aujourd'hui, Kirby Yates,
oui, avec Atlanta.
Avec les Braves. Donc, un excellent releveur qui n'est pas en santé depuis 2-3 ans. Reste à voir s'il pourra retrouver sa gloire d'antan, Kirby Yates, qui avait fait la pluie et le beau temps avec les Padres, entre autres. PA, tu voulais me jaser de football américain.
Oui. C'est présentement dans cette saison de football, elle est magnifique parce que c'est le chaos total. Des équipes qui ont gagné deux matchs, qui battent leurs équipes qui sont invaincues. Cette année, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont 6 victoires d'affilée. Présentement, il y a beaucoup de chances qu'on voit Tom Brady contre les Patriots au Super Bowl. Ça pourrait être quelque chose de fort sympathique.
Vraiment.
On a eu un début de saison catastrophique pour les Chiefs de Kansas City. Ils reprennent un peu les poils de la bête. Ils sont en train de reprendre les positions, mais c'est encore chambrant.
Les Chiefs qui ont échangé Laurent Duvernay-Tardif.
Ben oui, aux Jets de New York.
Ça se fait pas.
Ça se fait. Il va faire des balles à New York. Il va être bien heureux. Mais... D'autres mais en plus, New England n'ont pas battu des petites équipes. Ils ont battu présentement les Titans du Tennessee, qui sont une des excellentes équipes présentement. Malgré les blessures de leurs joueurs vedettes, le porteur de ballon, Roi Henry.
Le King Henry.
Le roi Henry. Bref. Une saison vraiment à voir cette année. Il y a plusieurs équipes qui enfin sortent du bas-fond du classement, qui vont prendre des positions, des nouvelles dynasties qui sont en train de se créer.
Il y a quand même des piliers qui sont là depuis longtemps. Les Packers mènent dans leur division, sont 9-3.
Oui, mais c'est probablement la dernière saison de
Aaron Rodgers
là-bas. Ça a été catastrophique, la dernière négociation avec. Ils ne savaient même pas s'ils allaient se présenter aux entraînements au début de saison. Il y avait pas mal de rumeurs qui l'envoyaient animer Jeopardy. C'est quand même assez spécial.
Wow.
Puis finalement, ils ont avec aussi le meilleur receveur des Packers, ils ont dit ça serait le temps qu'on fasse la... Ils ont mis la photo de Last Dance en disant c'est peut-être la dernière fois qu'on peut gagner avec les Packers. Donc oui,
je leur souhaite.
Mais c'est aussi une division qui est assez de sont assez bas présentement. Mm-hmm. Je pense aux Lions qui sont en 0-8 avec une nulle.
Effectivement. Les Bears, ça va pas full ben.
Les Bears qui ont un nouveau quarterback qui est quand même très fort, Justin Fields. Excellent joueur, sérieusement, je l'adore. C'est vraiment un bon coureur. C'est un futur, c'est un genre de Lamar Jackson, mais avec un peu moins de force au bras. Les Vikings qui surprennent, ils perdent contre des mauvaises équipes, mais contre les bonnes équipes, ils gagnent. Donc, c'est un peu des troubles faits chez les Vikings. Je pense aussi aux Bengals qui quittent enfin le bas-fond du classement, qui sont présentement sur une bonne lancée, qui battent des bonnes équipes, mais qui perdent contre les Jets et les Marlins.
Tu vois, ils ont gagné leurs deux derniers matchs quand même.
Oui,
c'est une belle séquence.
Non, mais des équipes aussi qu'on voyait mieux performer, je pense aux Bills, qui ont eu une excellente fin de saison l'année passée, mais qui présentement sont en train de se faire dépasser par les Patriots. On pense aussi aux Browns qui sont derniers présentement de leur division, qui étaient vraiment une des équipes à surveiller, mais qui ont sacré dehors ODL, qui est... comment il s'appelle?
ODL.
ODL. Voyons. ODL Jr., qui était un trouble fait, qui se présentait sur le terrain.
Odell Beckham Jr.
Se présentait sur le terrain avec une montre à 30 000 $.
Ouais, ben là, c'est ça.
Qui a été signé finalement par les Rams il y a deux semaines.
Bon débarras.
Mais c'est un peu ce qui fait le tour un peu de la NFL.
Nice!
Ouais.
Les séries commencent bientôt.
Oui, ils devraient commencer bientôt. Mais c'est maintenant des saisons de 16 matchs. On est rendu présentement à la semaine numéro 12.
Quand même. Donc, un bon mois d'activité. À noter que le Super Bowl est en février, comme à chaque année. Yeah! PA, merci pour cette émission.
Ça fait plaisir.
Assez dense, merci.
Ouais.
Crime, yes.
Voilà. Sur ça, je vais retourner dans mes séances d'écriture.
Ben oui, bonne fin de session, PA.
Merci énormément. Hey, bonne
fin de session à ceux et celles qui nous écoutent, qui étudient encore. C'était Conduite Antisportive, édition